tribunal.
L'audience est ouverte.
Bonjour à toutes et à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous rasseoir ou vous asseoir, je ne sais pas. C'est l'émission de Radio Grand Ciel qui vous est proposée par Maître Philippe Arbouche, avocat honoraire. C'est une émission qui vous familiarise avec les arcanes de la justice. Depuis le début de l'année, on vous raconte beaucoup d'histoires et c'est absolument délicieux, quoique parfois terrifiant. Aujourd'hui, je pense qu'on va un peu sourire quand même, parce qu'il va être question des escrocs. Alors quand on est escroqué, c'est pas marrant, c'est pas de tourpeau. Mais en tout cas, les escrocs sont généralement des personnages hauts en couleur. Bonjour Philippe.
Bonjour Christophe.
On va démarrer par la star des escrocs, c'est Stavisky. Alors peut-être que les gens ont un peu oublié qui était Stavisky, mais alors dis donc, il a fait exploser un peu la République.
Oui. Alors c'est vrai que quand on parle escroquerie, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, de façon générale, quand on est victime, les choses sont toujours beaucoup moins drôles et les victimes d'escrocs trouvent pas ça particulièrement réjouissant. Faut prendre du recul. Mais c'est vrai que vous avez raison, les escrocs ont généralement une personnalité assez fascinante. Ce sont des gens hauts en couleur. Ce sont des gens qui n'hésitent pas. Là où la plupart d'entre nous sommes un peu timorés parce que quand même, faut pas exagérer. Eux, ils exagèrent. Et on est tenté de penser plus c'est gros, plus ça marche. La caractéristique, on va parler de l'affaire Stavisky, mais la caractéristique quand même, un trait commun à beaucoup, beaucoup d'escrocs, c'est que ce sont des gens gentils.
Ça, c'est dangereux.
Oui, c'est dur à dire, à admettre, oui. Et puis on commence à se méfier après de tous les gens gentils. Mais, pour être un escroc, faut être gentil. Imaginons que vous ayez une méchante tête, un méchant visage, que vous soyez renfrogné, toujours en train de râler, acariâtre et peu galant, peu aimable, peu ce que vous... Bon, non, on va pas vers vous. Si vous êtes sympathique, si vous êtes drôle, si vous savez récompenser vos amis, invités, généreux, toujours un bon mot, ben voilà une personne agréable à vivre.
On peut être politicien, commercial ou escroc.
C'est au choix, c'est au choix. Alors, Stavisky, c'est un procès qui s'est ouvert en 1935. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce Alexandre Stavisky, qui s'est suicidé quand même, hein, en 1934. Donc, il n'a pas été jugé.
6 février 1934.
Exact. 9 janvier.
9 janvier. Le 6 février, un mois plus tard, il y avait la fameuse manifestation des Ligues.
Exactement. Et donc il n'a pas été jugé, lui. Il s'est suicidé. Ouais. Ce qui a été jugé, c'est tout ce qui tournait autour. C'est-à-dire, en fait, toutes les relations du monde parlementaire, de la presse, des juges qui étaient pas très, très à l'aise par rapport à ça. Et en fait, ce qu'a révélé cette affaire, c'est à partir d'une escroquerie somme toute assez banale, mais bien organisée, lorsque des parlementaires, lorsque des gens puissants, connus et élus sont visés, eh bien ça porte crédit à l'institution démocratique. Ouais. C'est en ça que l'affaire Stavisky est intéressante. C'est un escroc qui a su trouver les bonnes personnes, et le terrain politique était favorable à l'époque pour développer une haine contre la démocratie, contre tous ces gens qui avaient profité de Stavisky.
En quoi consistait en fait les escroqueries de Stavisky et qui en ont été les victimes finalement ?
Alors, les victimes, en fait, ce sont des détournements de fonds. On crée de faux titres. Je suis en train de voir l'escroquerie d'Orléans et de Bayonne, c'est le crédit municipal. Voilà, le crédit municipal. On crée des institutions, des prêts bancaires, des faux prêts bancaires. Voilà. Et on vole l'argent, soit des épargnants, soit des banques. Par exemple, dans l'affaire d'Orléans, du Crédit Municipal d'Orléans, qui est la plus connue, on avait à l'époque, attention, à l'époque, on est en 1935, hein, 34, on a eu 22 millions de francs qui ont été détournés en une année.
C'était énorme à l'époque, voilà. J'imagine.
Ouais. C'est des sommes, on ne peut pas imaginer. Et c'était garanti par un stock d'émeraude. Vous voyez, là, on retourne sur l'escroc classique, c'est-à-dire il avait emprunté de l'argent. Alors les directeurs d'établissement étaient concernés, avaient accepté ces prêts et ont été victimes de cet escroc. Mais eux-mêmes, en l'occurrence le directeur de Crédit Municipal d'Orléans, il y a eu Bayonne aussi qui était très très important, sont devenus eux-mêmes des accusés dans le box.
C'était presque des complices.
C'était des complices. Il y avait une soixantaine d'accusés dans le box, des avocats. De box était prévenu, pardon. Les avocats ne pouvaient pas s'asseoir, dit-on. Et c'était une audience extraordinaire parce qu'en fait, les interrogatoires, il y a eu 3 heures pour lire l'acte d'accusation, 3 semaines pour les interrogatoires et 5 semaines pour entendre les témoins. C'est-à-dire pour démonter ce système d'escroquerie qui était extrêmement complexe, c'est-à-dire par un système de relais, on peut imaginer de pyramides de Ponzi à l'époque, enfin de choses de ce genre. Ce qui est surtout intéressant, c'est que le personnage de Stavisky avait réussi à convaincre des directeurs de banque, des parlementaires, des personnages qui habituellement sont méfiants quand même, sont prudents au moins. Il avait réussi, sur sa bonne foi, à les escroquer et à donner, je vous dis, des stocks d'émeraudes pour garantir un emprunt bancaire.
Oui.
Faut quand même, stocks d'émeraudes qui venaient. C'est une émeraude exceptionnelle, bien sûr, hein, on est un escroc ou on ne l'est pas, qui, bien sûr, on baisse le ton dans ces cas-là, aurait appartenu à la reine de Saba, directement.
C'est fou, parce qu'il y a une forme de mythomanie aussi. C'est
complètement.
Presque, ça pourrait être dangereux, je veux dire, de raconter une connerie pareille,
ouais.
Mais non.
Ça gobe.
Au contraire.
On gobe. Et donc, on s'aperçoit que ce sont des pièces synthétiques. Vous vous rendez compte comment une personne directeur de banque, mais c'est pas un seul directeur de banque, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes, comment peuvent-ils croire que des émeraudes provenant de la reine de Saba aient mis en gage contre un crédit, quoi.
Ça paraît hallucinant, mais c'est tout le talent de l'escroc. Quoi.
C'est le talent d'escroc. Moi, je vous fais ça à vous, je pense que vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. J'ai pas ce talent d'escroc. Je peux pas prétendre vous vendre. On en parlera peut-être un peu plus tard.
Oui, parce que vous avez en troisième partie d'émission, je le dis aux auditeurs, on va évoquer un cas que vous avez vous défendu personnellement.
Oui.
Oh là là.
Oui, mais moins pas Stavisky, mais
non, mais quand même.
Mais quand même, des gens qui ont des capacités à promener tout le monde, on va dire, à tromper avec souvent beaucoup d'élégance. Une des caractéristiques aussi, c'est que les victimes, sont pas très fières généralement et elles hésitent avant oui. Déposer plainte parce que elles sont soit complices par faiblesse, hein, soit l'appât du gain aussi, soit elles ont honte.
Oui.
Et alors dans l'affaire Stavisky, en fait, c'était des notables, le maire de la ville de Bayonne qui avait protégé cet homme, donc ça a débordé sur les milieux politiques et c'est vraiment à partir de là que la Troisième République étant secouée par ces affaires, on a eu une faillite frauduleuse qui provoque la chute d'un gouvernement.
C'est fou.
Le garde des Sceaux de l'époque est accusé de corruption. Et le Stavisky, c'est le parti radical de l'époque qui est en cause. Et c'est toute la République qui est discréditée et la montée des ligues d'anciens combattants, de royalistes d'Action française, qui condamnent un régime qui est pourri.
Ouais.
Pour eux. Et Stavisky, on pourrait dire, c'est à travers ce petit bonhomme et cette escroquerie fait basculer d'une époque à l'autre. On commence à voir la montée des extrêmes
à travers
Stavisky.
On peut conseiller peut-être à nos auditeurs de revoir le film d'Alain Resnais, l'affaire Stavisky,
oui.
avec Jean-Paul Belmondo.
Et Belmondo est sympathique.
Oui. Ah oui, c'est vrai, oui.
Belmondo est sympathique.
On ne serait pas méfié de lui, tiens.
Non, un brave gars.
On écoute Gilbert Enaudi, le conducteur de tramway. On se retrouve pour évoquer un autre escroc. Allez, je vous dis son nom, il s'appelle Loustic. Et oui, et c'est vrai, tout est vrai.
J'ai mâché du pétale, j'ai allumé des cigares avec des dollars. J'ai pêché aux Seychelles, j'ai vécu à Hong Kong en grattant ma guitare. Les années indigène de l'île de Pâques m'avait tous appelé Garon. Ce qui veut dire l'homme à qui obéissent les dieux qui vivent cachés tout là-haut. Alors vous pensez finir ma vie dans la peau d'un conducteur de tramway? Ça ne me gêne pas, c'est l'idéal pour moi. Alors vous pensez finir ma vie dans la peau d'un conducteur de tramway? Ça ne me gêne pas.
Voilà, nous venons d'écouter Gilbert Renaudy, le conducteur de tramway. Et à présent, eh bien, nous allons évoquer la figure d'un autre escroc qui avait vraiment fait très très fort. On se dit, mais comment la chose est-elle possible de vendre deux fois la tour Eiffel? Eh bien, Lustig l'a fait.
Oui. Lustig, il s'appelle Lustig, L-U-S-T-I-G. Et c'est bien sûr Lustig. Et Lustig, c'est un mot qui désigne un joyau de riz, en fait. C'était quelqu'un qui accompagnait les régiments suisses. C'est un bouffon qui amusait les gardes suisses qui étaient en mal du pays. C'est de l'allemand joyeux, amusant, gai. Alors, en fait, ce Lustig-là, on est en 1925, à Paris. Et c'est un monsieur qui a escroqué aux États-Unis des croisiéristes milliardaires. Il a truqué au jeu, il a fourni des faux tuyaux pour les courses, il a écoulé de la fausse monnaie. Et en lisant son journal aux Champs-Élysées, il découvre que la tour Eiffel est rouillée, qu'elle souffre de la rouille, elle est peu entretenue, et qu'elle est dans un piètre état. Alors, il se peigne, il met une petite moustache, il s'autoproclame comte, et il organise très officiellement la vente de la tour Eiffel. Donc, il devient, pour la circonstance, haut fonctionnaire, il est doté de papiers officiels, et il invite 5 ferrailleurs importants à déjeuner à l'hôtel de Crillon à Paris. Donc l'hôtel de Crillon a été inauguré en 1909 et c'est quand même là qu'a eu lieu, a été signé le pacte constitutif de la Société des Nations. Donc on a un haut lieu. Oui. Nos 5 ferrailleurs, j'en sais pas davantage, mais on peut imaginer qu'ils sont impressionnés par ce comte qui les invite à l'hôtel de Crillon.
Ça solennise le moment, évidemment.
Voilà, repas prestigieux, on peut imaginer, tous les moyens sont donnés. Et il dit qu'en fait, la tour Eiffel va être démantelée, qu'elle n'a plus aucune utilité, sauf pour les militaires, mais que même les militaires vont la laisser, et qu'elle va être vendue au plus offrant. Et il s'agit quand même de plusieurs milliers de tonnes de métal. Il les emmène visiter la tour Eiffel, et pour conforter ses affirmations, il leur montre les points de rouille, et il leur dit, voyez, là, c'est vraiment qu'une question de jour, la solidité est en cause. Donc les ferrailleurs se disent quand même. Le plus réactif de ces ferrailleurs, c'est un dénommé Monsieur Poisson. Et Monsieur Poisson, c'est authentique. Hein, Monsieur Poisson est d'autant plus intéressé que notre Lustig, il a le soutien du président de la République, Monsieur Doumergue. Et il lui propose, il lui dit, voilà, écoutez, moi, je vous donne cette priorité, mais il faut remettre un pot de vin aux autorités. Vous pensez bien que les autorités vont pas vous choisir, vous. Alors, s'il vous plaît, gardez le secret, parce qu'on va avoir des mouvements de protestation. Vous savez bien, il y a des gens qui vont vouloir conserver cette tour Eiffel. Donc, gardez le secret, s'il vous plaît. Et le Poisson, il hypothèque sa maison. Il vend tout ce qu'il peut pour acheter les 15 000 poutres de fer qui sont mises en vente. Il leur met un chèque, une forte somme d'argent, et notre ami Lustig, si on peut dire, s'en va vers l'Autriche. Poisson ne dépose pas plainte.
Ah oui.
Il est honteux, il est berné, et c'est toute sa crédibilité qui est en jeu. C'est un homme d'affaires quand même. Hein. Il dépose pas plainte, mais Lustig, du coup, il commet quand même une petite maladresse, comme il voit que l'autre n'a pas déposé plainte, il revient un mois plus tard et il retente le coup pour revendre une deuxième fois la tour Eiffel. Alors là, ça se sait.
De la même manière.
Oui, exactement. Et là, ça se sait, c'est éventé. Donc juste à temps, il s'enfuit aux États-Unis Et en fait, il meurt en prison en 1947. À l'occasion, quand même, il peut se vanter, ce Lustig, d'être sans doute un des seuls à avoir grugé de quelques millions de faux dollars Al Capone. Donc c'est quand même du haut de gamme, c'est de l'escroquerie, vendre deux fois la Tour Eiffel et se retrouver quand même, ayant escroqué Al Capone, là je pense que...
Il a fait une belle carrière.
Il a fait une jolie carrière, monsieur le comte, voilà, monsieur le comte. Je sais pas ce qu'est devenu la famille Poisson, je pense qu'ils sont ruinés, mais...
Je me posais une question, donc c'est le profil psychologique finalement du... De l'escroc, parce que on le disait en préparant l'émission, il y a peut-être une petite dimension pathologique, parce qu'il faut vivre constamment dans le mensonge. C'est pas évident, je veux dire.
Non, ce sont des gens qui vivent dans le mensonge, qui font. Leur entourage, généralement, souffre énormément quand ils ont encore de l'entourage, parce que on ne peut pas vivre 24 heures sur 24 dans le mensonge. Il y a un moment où on est face à soi-même. Et ce moment-là est retardé pour eux. Non, ce sont des gens... Moi, je ne suis pas médecin et spécialiste et psychologue, mais ce sont des gens qui souffrent d'une pathologie particulière, de mythomane, folie des grandeurs, hyper-confiance en soi, enfin, des traits... ce sont des traits, quand même...
Des sociopathes, un peu,
Oui. Et ça ne s'arrête jamais. On est dans la cavalerie. C'est rare qu'un escroc puisse s'arrêter. Enfin, en tout cas, ces grandes histoires-là, non. Ouais. Voilà.
On va écouter « Je suis un aventurier » de Jacques Dutronc, et on va se retrouver pour évoquer un escroc que vous avez côtoyé, vous avez défendu. Et moi, j'ai trouvé que cette histoire était assez extraordinaire. Voilà, on va l'écouter. Mais tout d'abord, Jacques Dutronc.
Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota, et des calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé.
Voilà, c'était « Je suis un aventurier » de Jacques Dutronc. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Rancière, l'émission « L'audience est ouverte », une émission qui vous permet d'entrer, pas par effraction, dans les arcanes de la justice. Et nous évoquons aujourd'hui des grandes figures d'escrocs. On a commencé par Stavisky, on a continué par Lustig. Et nous allons continuer, éclore avec un escroc local, si j'ose dire, puisque vous l'avez défendu, Philippe Arbouche. Et vous allez nous parler de cette histoire extraordinaire.
Oui, alors, pour que tout soit bien clair, cette histoire est authentique, mais j'ai bien sûr modifié tous les noms, tous les lieux, même si ça fait très longtemps maintenant et que tout est bien terminé depuis longtemps. Non, c'est amusant, si l'on peut dire, c'est que la personne que j'ai défendue, et c'est en ça qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un escroc, avait pas mal d'identité. C'est-à-dire qu'elle s'appelait un jour Dupont, un jour Durand, un jour Martin. Elle avait, à l'époque, c'était plus facile que maintenant, des pièces d'identité, l'une au nom de Dupont, Durand, Martin. Elle avait ouvert un compte, là au nom de Dupont, là au nom de Durand, là au nom de Martin.
Il faut quand même des complices, alors, pour avoir les papiers différents, j'imagine.
Il faut, pardon ?
Avoir des complices pour faire les faux papiers, etc.
Alors, en l'occurrence, là, c'était pas des papiers achetés. À l'époque, c'était plus facile. Il falsifiait un acte initial, si vous voulez, qui était assez facile. Il avait repéré des mairies dans lesquelles il n'y avait pas du tout d'informatique à l'époque, etc., etc. Et il falsifiait de façon assez simple, avec des photocopies, et il se créait une nouvelle identité. Je pense que ce ne serait plus du tout possible maintenant. La moindre carte d'identité, on nous prend nos empreintes. Enfin, mais c'était comme ça et ça marchait assez bien. Alors, il était dans la région de Bordeaux et il écumait en fait les salles des ventes. Alors, petit bémol quand même, il fallait qu'il ait de la camelote au départ. La camelote était volée par des complices. Et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre, volait des objets anciens, des objets d'art, donc un gang de voleurs, mais il n'avait comme rapport avec eux que le minimum, et il s'est fait choper, toper bêtement un jour, c'est que sur le parking d'un centre commercial, c'était dans la région chartraine, les policiers faisaient une tournée tout à fait banale. Et puis ils ont vu un coffre de voiture ouvert et un monsieur qui mettait des affaires dedans et un camionnette à côté. Et c'était les voleurs qui étaient en train de lui passer des bronzes anciens et des tableaux.
— Contrôle de routine.
— Contrôle de routine. Et là, l'affaire s'est écroulée. Donc on a pris ce monsieur. Bien sûr, les voleurs se sont sauvés avec leur camionnette. Lui, il est resté là. On l'a pris. On a dit d'où viennent ces bronzes et puis où ces tableaux. Et puis il a eu du mal à l'expliquer. Et on a trouvé donc plusieurs papiers d'identité. Il a bien sûr été incarcéré. Et au fil et à mesure du temps, devant la juge d'instruction, on en apprenait de nouvelles à chaque fois. Les commissions rogatoires qui avaient été diligentées, donc les enquêtes par les services de gendarmerie, permettaient de prouver que ce monsieur s'appelait, par exemple, à Angoulême, monsieur Dupont, et à Jarnac, il s'appelait monsieur Durand. Et à Saint-Émilion, il s'appelait Monsieur Martin. Et il vendait dans les salles des ventes des objets qui avaient été dérobés sous des noms d'emprunt. Il avait, ça c'est côté folklorique, il avait vissé des boîtes aux lettres dans des immeubles où il n'y avait pas de concierge et des immeubles un petit peu anciens.
C'est romanesque.
Il avait vissé des boîtes aux lettres et il avait mis son nom. Et donc il allait voir le commissaire priseur, il était extrêmement agréable, comme monsieur, c'était un homme absolument charmant, il avait très bon contact avec le commissaire priseur, qui ne se sont méfiés de rien pendant des années et des années, alors que quand même, hein. Et donc il leur vendait un bras, il disait « j'ai récupéré un bronze dans une, voilà, dans une maison, ah oui, il est pas mal ». Il en tirait des sommes conséquentes, mais à force, ça s'accumulait. Et il se faisait envoyer. Donc, Monsieur Martin avait vendu un bronze. Il en avait tiré à l'époque, peu importe, 5000 francs. Et il se faisait envoyer le chèque 32 rue des Écuyers à Angoulême, par exemple. Et là, il y avait une boîte aux lettres à son nom. Et il allait relever sa boîte aux lettres. Et il allait mettre ça sur son compte de Monsieur Martin. Puis après, avec des mouvements divers, tout ça était centralisé sur un autre compte qui était à son vrai nom.
Alors, ce qui est extraordinaire, on m'a dit, en fait, c'est quelqu'un qui était marié, hein, qui avait, je suppose, des enfants. Mais il donnait le change dans sa propre famille, alors.
Complètement. Alors, j'ai jamais trop su véritablement, ouais, parce que son épouse travaillait aux impôts. Et j'avais toujours trouvé extraordinaire que cette dame, qui était elle aussi charmante, puisse méconnaître à ce point l'activité de son mari, qui se disait brocanteur. Je n'ai jamais su le fond de l'affaire. Mais pour finir, moi, j'avais été commis d'office dans cette affaire. Car il ne voulait pas d'avocat payant. Il m'avait dit, j'avais fait du très bon travail, je me souviens, il m'avait dit, écoutez, non, moi, j'ai aucune raison de, je n'ai pas d'argent, mais surtout, je ne veux pas prendre un ténor du barreau ou soi-disant comme tel, etc. Non, faites bien votre.
Escroc épingre.
Oui, faites bien votre boulot. Et je m'étais pris d'amitié, c'est un trop grand mot, mais enfin quand même, pour vous dire, à la prison, il était quand même bibliothécaire. Et il était très, très considéré par la hiérarchie pénitentiaire qui prenait son avis quand il y avait des choses un peu compliquées. Il faisait un peu le juge de paix. Enfin, il était toujours vêtu de pied, enfin, très élégant, très smart. Et au moment du procès, il a donc été condamné. Et il a été condamné à des dommages d'intérêt assez conséquents. Et il était ruiné puisqu'il avait une maison. Et cette maison avait été saisie pour payer les dommages et intérêts. Et je suis allé voir après le procès. Il était très, très joyeux. Et je lui ai dit, mais quand même, voilà, vous avez pris... Au plan de la peine, c'était pas énorme. Mais au plan des dommages et intérêts, c'était colossal. La preuve, il n'avait plus de maison, il n'avait plus de voiture. Enfin, tout avait été saisi. Je lui ai dit, vous n'avez plus rien. Et il me regarde dans les yeux et me dit, ne vous inquiétez pas pour moi, maître. J'ai appris par la suite, il m'a envoyé un petit carton, qu'il était, il est toujours, je crois, longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, très longtemps, Mais aux dernières nouvelles, il était dirigeant d'une petite entreprise qui prospérait très très bien. Il avait sa propre usine avec une vingtaine de salariés. Il était dans l'activité industrielle, tout à fait respectable et respecté.
Ah, un happy end.
Ouais.
Oh, mais c'est extraordinaire comme histoire. Ils sont difficiles à défendre, ou ces gens-là?
Personne n'est dupe.
Personne n'est dupe.
Ouais. On n'a jamais la vérité avec ces gens-là. Ouais. Jamais. Il faut partir de cette idée que ce sont des gens qui vivent dans le mensonge quand même.
Oui.
Donc aussi bien à l'égard de leur avocat que de leur famille, etc. C'est difficile. Hein. Là, je le décris comme quelqu'un de sympathique, mais j'aurais pas voulu être de sa famille. Hein. Parce que quand même, c'est une double personnalité, voire triple, voire quadruple dans ce cas-là. Et je ne sais pas entre nous comment ils faisaient pour s'y retrouver, surtout. Et ça qui m'impressionnait le plus, c'est que être capable de s'appeler Durand un jour, Martin le lendemain et Lefebvre le troisième jour... Ce sont des gens qui, s'ils n'étaient pas malhonnêtes, pourraient faire des choses, je crois, vraiment très, très, très intéressantes. Mais
oui,
il était malhonnête.
Rarement, finalement, un escroc en vient à l'homicide, par exemple, non? Ce sont des gens plutôt non-violents.
Ah non, ce ne sont pas des gens violents du tout.
Du tout.
Ah non, enfin, ceux dont je parle, oui, ceux que j'ai connus, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais... Non, ce ne sont pas des gens violents du tout. Ce sont des gens surtout aimables. Affable, agréable à vivre, agréable en société, voilà. Mais qui ont toujours un coup dans la tête, qui ont toujours quelque chose à proposer, une combine. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec Le Bon Coin et compagnie, je préfère ne pas penser à des organisations, parce que là, il ne s'agit pas d'organisations criminelles. Ce dont je vous parle là, ce sont des escrocs individuels.
Oui.
Mais il y a par ailleurs des organisations criminelles, bien sûr. L'escroc individuel, lui, ils doivent rester, mais ils ont dû changer. Enfin,
oui.
Internet permet beaucoup de choses maintenant, quand même.
On arrive au terme de cette émission. Tout à l'heure, j'ai conseillé le film d'Alain Ranès-Lavisky. Je conseillerais bien aussi un autre film sur un escroc parfaitement interprété par François Cluzet. C'est le film de Xavier Giannoli, À l'origine, qui est extraordinaire, qui nous met vraiment dans la tête d'un escroc jusqu'à la folie, ou presque.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pourrez réécouter cette émission. L'audience est ouverte sur www.radiograndciel.fr. On se retrouve le mois prochain avec deux affaires passionnantes que tout le monde connaît, forcément. C'est l'affaire Seznec et l'affaire Dominici, qui a fait l'objet de deux films, là encore.
Si.
À très bientôt.
À bientôt. Merci.